Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez bien Radio Diwa sur le 107.5 ou sur internet rdwa.fr où vous pourrez retrouver cette émission en podcast. Voici une seconde émission de Poésie Mystique pour cette édition numéro 25 de Radio Médium, ce lundi 9 mars, une émission déjà enregistrée. Avec nous en studio, Richard et Myriam, de l'ensemble Yashirim, avec leurs instruments. Richard dira sa propre poésie lyrique. Et puis Latika pour les textes de Luc Boussard, Luc pour la poésie arabo-persane, et Myriam et Séverine pour la poésie sino-japonaise. Nous écoutons pour commencer Myriam avec un chant syro-maronite des premiers chrétiens d'Orient, un texte qui parle du Seigneur qui lave les pieds de ses disciples.
La paix en nous-mêmes, de Richard Morin dit Machelaurier. Ô combien l'homme périclite dans sa dimension humaine, quand il ne se rappelle plus qui il est, ni d'où il vient. Et pourtant, si l'humilité est une perpétuelle paix du cœur pour certains, une autre façon d'être à soi-même, aux autres et au monde, c'est que ceux-ci ne se sont pas laissés bercer d'illusions, et qu'ils ont pu ainsi donner à leur vraie nature la place qui lui revient. Il n'est pas en effet de perspective plus grande que celle de savoir à quelle fin nous avons pris forme humaine. Pas de perspective plus grande que celle de devenir véritablement qui nous sommes, en s'ouvrant à notre dimension oubliée. Pas de perspective plus grande que celle de jouer enfin la note juste qui résonne en nous, afin de vibrer avec, à l'unisson avec la nature dont nous sommes une des composantes, ne l'oublions pas. Renouer avec nous-mêmes apaise notre cœur. Il devient alors plus facile d'être en paix, en harmonie avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Tout ne devient-il pas plus réel quand nous touchons cette paix en nous-mêmes? Comme si nous devenions pleinement vivants dans l'instant. Alors, tout autour de nous prend de la couleur, du relief, car nous entrons dans la pleine conscience. Ce pamphlet qu'en ce jour je viens vous délivrer n'était point un secret gardé dans une tour, face le ciel de nous en délivrer. Et ne serait-ce votre visage étonné, je vous croirais au fond satisfait que d'avoir pu entendre dès lors ce qui paraît être richesses et trésors. Ah donc, à vous de le faire fructifier, cet avoir qui maintenant est vôtre. Et même si chaque jour de notre vie, bon nombre de mines d'apôtres s'emploient à nous le faire oublier, certainement saurons-nous nous rappeler qu'il fut un temps pas si lointain où, en réveillant certaines mémoires oubliées, le merveilleux, tout naturellement, en nous vit son chemin.
S'entour. Amour et ivresse sont mes deux pôles, les deux portes d'une voie unique. Ivresse est la nuit profonde dont amour est la lune, éclatante et limpide. Plus l'amant contemple l'aimé, plus il la trouve resplendissante. Et son désir s'exalte, et il aspire à la servir en tout, à s'effacer pour qu'éclate sa beauté. Ainsi il s'amenuise et se perd. Et plus il se déploie, comme le rossignol se perd et se déploie dans son champ. Le visage de l'aimé est un ovale parfait, son regard une source où scintillent mille feux, son haleine l'aube d'été. Ses baisers sont la rosée et le soleil de midi, son corps un fleuve de lait plus odorant que le printemps. Verse tes cheveux sur ma poitrine, emplis la coupe. Buvons le vin rubis entre baisers et caresses. Du silence ardent de nos cœurs, laissons jaillir la langue des oiseaux. Ainsi s'écoulent les jours et les nuits, dans un présent toujours neuf, limpide et fluide. Mais que nul ne le sache, ni toi, ni moi, ni l'amant, ni l'aimé, ni même le halam, car la passion dévorante est une fleur de la pénombre que le grand jour flétrit. Folie d'amour et d'ivresse, déraison, naissance, la nef qui nous porte vogue dans un ciel sans dessous ni dessus, où nul capitaine ne dresse l'inventaire des étoiles. L'extase d'amour, qui est musique des sphères, ne s'accommode que du silence des cœurs. La taverne et les chansons, la jarre et la coupe de turquoise, le vin rubis, les lèvres et les boucles de l'aimé, tous les trésors de l'Orient sont un secret jalousement gardé, une folie qui échappe à ce monde. Souviens-toi de l'histoire que conte le poète de Shiraz. L'amant vint frapper à la porte de l'aimé. « Qui est là ? » s'enquit-elle. « C'est moi, » dit-il. « Il n'y a pas de place ici pour toi, » répondit-elle, et la porte resta fermée. Il revint l'année suivante et frappa de rechef. « Qui est là ? » lui fut-il demandé. « Toi, » répondit-il, et la porte s'ouvrit. Aime et bois sans réserve, car cela n'a qu'un temps. Khayyam et Hafiz te l'ont dit. Livre-toi, avant que cette vie ne te quitte à jamais, à la folie d'amour et de vin. Et prends garde que celui qui s'est enfui par la porte ne rentre par la fenêtre.
Ô feu qui éteint le feu! Ravage cette maison, brûle et prends ma raison, fais-moi fou à nouveau. Ô pèlerin de la Kaaba, où êtes-vous? Où allez-vous? Accourez! Il est ici l'aimé que vous cherchez. La maison et sa splendeur, vous l'avez bien décrite. Mais parlez-moi aussi du maître du logis. Si vous voyez sans forme la forme de l'aimé, alors vous vous connaîtrez vous-même, à la fois maître du logis, maison et pèlerinage. L'aimé est votre voisin, et vous errez sans fin au désert. Dans quel espoir, ô pèlerin ? Omar Khayyam. Les gouttes de pluie pleurnichaient. Coupées de la mer, nous voilà toutes. La mer, par un rire, répondit. Un tout, nous le sommes. Nous sommes le tout. Pas d'autre Dieu que nous tous. En vérité, lui, c'est nous tous. Un point dans le cercle du divin, voilà ce qu'est chacun de nous.
Shodoka de Yokadaishi. J'entre dans la montagne profonde, où j'habite un ermitage. Sous le grand pin d'une cime escarpée plongeant dans l'abîme. Je m'assois tranquille et sans souci dans mon humble demeure. Retraite silencieuse, sereine simplicité. Le miroir de l'esprit éclaire sans obstruction. Son éclat pénètre l'univers entier. Les myriades de phénomènes s'y reflètent. C'est un joyau parfait, sans dehors ni dedans.
Dogen. Dans l'eau de l'esprit, sans souillure, se mire le clair de lune. Même les vagues s'y brisent et deviennent lumière. Notre vie, à quoi la comparer ? Au reflet de la lune, dans une goutte de rosée, suspendue au bec de l'oiseau aquatique. Anshan. Étrange en vérité est le chemin qui mène au mont froid. On n'y voit nulle ornière ni empreinte de sabots. Les vallées serpentent à perte de vue, les cimes escaladent le ciel. L'herbe scintille de rosée et les pins murmurent sous la brise. N'as-tu pas encore compris ? La réalité demande à l'ombre le chemin.
La peur de l'inconnu. Lors d'un de mes voyages en terre lointaine, j'ai rencontré un personnage étonnant et bien particulier tout à la fois, dont l'histoire, belle et étrange, recèle des trésors pour l'être. Il est de la lignée des passeurs, vous savez, de ceux qui faisaient traverser les gens d'un bord à l'autre d'une rivière, à port d'une barge ou d'une embarcation, avant que des ponts ne viennent l'enjamber. Lui, c'est sur un autre registre qu'il intervient. Il nous aide plutôt à avancer, à franchir des pas, des étapes. C'est le passeur d'âme. Voilà donc le fruit de notre rencontre et ce qu'il m'a inspiré dans toute sa singularité. Si donc notre imaginaire collectif se laisse gagner par ces images, peut-être aurons-nous assez de sensitifs pour en comprendre le message. Celui qui à nos pieds fait voir où les poser nous aide par là même plus loin à avancer. De telle sorte qu'allant ainsi de l'avant, l'éveil nous découvrions tout en même temps. Serait-il alors cette partie de nous-mêmes qui veille et qui révèle, sachant si bien ôter nos doutes alors que déjà nous nous savons en route? Quel recoin de notre être va-t-il éclairer de sa lanterne? C'est vrai qu'il peut aussi inquiéter, ne sachant pas vers quoi il nous emmène. C'est bien là d'ailleurs qu'est son côté ambigu, personnifiant en même temps notre peur d'entrer dans l'inconnu. Sommes-nous prêts à voir les choses en face, en authenticité, qui se traduirait par se regarder tel que nous sommes? S'il est tel chemin qui soit pour progresser, mettant à jour d'autres aspects moindres de notre personne, ainsi est-il incontournable de l'emprunter pour mieux comprendre de quoi sommes-nous faits? Oui, mais pour cela, faut-il encore à l'eau se jeter? Alors, de nos illusions débarrassées, pourrons-nous enfin tranquillement cheminer? Ou bien avons-nous si haute opinion de nous-mêmes que nous nous refusions d'entrer dans cette arène? Qu'est-elle donc alors cette peur de l'inconnu? Ayons l'honnêteté d'en être convaincus. C'est que perdre ses repères peut aussi dans quelques craintes nous mettre, mais voulons-nous franchir un pas maintenant ou nous figer dans un immobilisme latent? C'est que d'aborder certaines vérités nous est parfois difficile d'accepter. Ceci n'étant pas pour nous familier, il se peut même que cela nous effraie. Tant et si bien qu'en se plaisant dans un système d'habitude bien ancré, nous devenons enclins à la frilosité. Et c'est bien là-dessus, justement, que ce personnage nous dérange. Il est tellement facile d'être ce qui nous arrange. Mais la vie n'est-elle pas que mouvement ? Ne ralentissons pas les aiguilles de notre horloge interne. Nous perdrions notre souffle et aussi notre temps, devenant comme un navire avec ses voiles en berne. S'il est ici certaines vérités qui séant nous échoient, c'est bien d'avoir dépassé nos craintes tout à la fois. Se mettant bien à notre portée, celui-là s'est éveillé en nous une saine curiosité. Ayant de tout cela eu vent, afin de pouvoir nous ajuster, combien est-il agréable en ce jour d'accoster, en se sentant agrandi du dedans, tandis que s'ouvrent pour nous des horizons nouveaux, et puis aussi d'autres perspectives, nous faisant ainsi passer sur l'autre rive, après que nos fardeaux aient coulé dans les flots. Tel est le rôle du passeur d'âme, voilà défini sa fonction. Et s'il est ici certains messages que j'eusse voulu vous délivrer, j'espère, en faisant le décryptage, avoir ainsi piqué votre curiosité.
À qui croyez-vous parler ? J'ai l'air gentil comme ça, mais je suis une cohorte entière. Le Graal, un désespérado, un anachorète, paysan, poète et guerrier, un ectoplasme, un paranoïaque obèse, membre notoire d'innombrables académies et sociétés secrètes. Je m'enfante à profusion et ne me connais pas. Le matin, je suis une fine lame, un bretteur. Le soir sera mon heure sur les toits qu'entourent les chauves-souris. À midi, vous me croisez et vous dites « Où l'ai-je déjà vu celui-là » Eh bien, sachez-le, vous m'avez vu sur le vitrail d'une église ou m'avez suivi dans une rue pavée à Montevideo. Je m'appelle Clément, Jacques, Frédéric, François, Ernest et Jean. Tantôt je suis mort, tantôt je suce avidement les mamelles des femmes et je jongle avec le soleil et la lune. Poème chinois. Du toboggan qui m'emporte vers l'abîme, je contemple la lune et la voûte étoilée.
Saïd Bahodine Majrou. Extrait du Voyageur de minuit. Oh, ami, famélique et dur. Celui qui porte le feu au dehors, sans accomplir la révolution intérieure, celui-là est une calamité en marche dans les bataillons de la dévastation. Extrait des Chants de l'errance. Chez les errants, le voyageur avait remarqué un jeune homme au comportement étrange. Il semblait comme hanté, allant d'un passant et d'un lieu à un autre, avec cette seule question aux lèvres. « Ô ami, pourquoi suis-je en exil ?» Avec et sans réponse, il s'en allait ailleurs poser sa question. On murmurait des choses, on murmurait folie. Et qu'il y avait du paradoxe là-dessous, que ce jeune homme dessinait une énigme. N'aurait-il pas dû, au contraire, s'avérer le moins concerné par l'exil ? Celui dont la question montrait assez qu'il n'était pas là. Un soir, le jeune homme hanté vint trouver le voyageur de minuit et lui demanda sans préambule : Ô voyageur, pourquoi suis-je en exil ? Ô jeune ami, ta question est comme un cadre vide. Tu cherches sans lumière un objet inconnu parmi l'obscurité. La question de la fin, tu l'as mise au départ. Que faire ? Ami de l'égarement, place ton pas dans le pas qui déchiffre le sens. Le sens de ta vie est dans l'exil ? Apprends à reconnaître l'exilé et l'exileur. Cherche l'exil, son sens, et ton pourquoi sera comblé. À ces paroles, le jeune homme répondit par un silence. Quelques instants pensifs, et d'un bond il fut dans la nuit. Lorsqu'il réapparut, après une longue absence, Il était pâle et faible. Et le voyageur reçut son histoire. Ô voyageur, tes mots cette nuit-là ont piégé ma question et l'ont transformé. Partout désormais j'ai demandé, ô ami, qu'est-ce que l'exil ? De nouveau je fus hanté. Alors je vis que les exilés ne savaient pas ce qu'était l'exil et que j'étais un exilé.
L'hypo, boire seul au clair de lune. Un flacon de vin au milieu des fleurs, je bois tout seul, sans compagnon. Je lève ma coupe, lune, à ta santé. Moi, la lune, mon ombre, nous voilà trois. La lune, hélas, ne boit pas. Mon ombre ne sait qu'être là. Amis d'un moment, la lune est mon ombre. Le printemps nous dit d'être vite heureux. Je chante et la lune flâne. Je danse et mon ombre veille. Avant d'être ivres, nous jouons ensemble. L'ivresse venue, nous nous séparons. Puisse longtemps durer notre amitié calme. Rendez-vous un jour dans la Voie lactée. Écoutez au seuil Choan le moine Kun qui joue de la sitar. Le moine de Seuil Choan tout en haut du mont Omei. Il descend vers l'ouest, il tient une sitar. Ses doigts pour moi en caressent les cordes. Chaque note fait murmurer 10 000 pins dans la vallée. Mon cœur est purifié comme par l'eau courante. Longtemps l'ultime écho se fond à une cloche qui sonne. Et je ne m'aperçois pas que les collines vertes sont devenues grises, ni que les nuages d'automne ont peu à peu assombri la vallée. À Tufu. Sur la montagne du Ribouilly, j'ai rencontré le grand Tufu, coiffé d'un chapeau de bambou dans la brûlure du midi. Pourquoi es-tu devenu si maigre? Est-ce le malheur d'être poète? Po Kiyi. Le silence et le vent. Mon luth repose sur la table, je flotte au gré de mes songes. À quoi bon égrener un air? Le vent, en effleurant les cordes, saura chanter ce que je t'ai. Ikkyu, squelette. Les tribulations de la vie, aussi pénibles soient-elles, nous enseignent à ne pas nous accrocher à ce monde flottant. Pourquoi les gens accumulent-ils les décorations sur ce sac d'os destiné à disparaître sans laisser de traces? Le corps original est voué à retourner à sa place originale. Ne recherche pas ce qui ne peut être trouvé. Tous les péchés commis dans les trois mondes disparaîtront avec moi. En ce monde, toutes choses sans exception sont irréels. La mort elle-même est une illusion.
Les montagnes du Diwa. Ici, au pied des falaises du Vercors, dans cette belle région du Diwa, il semble bien être un pays où coule le lait et le miel, où les choses de l'esprit s'échangent et se partagent, tout en étant aussi une terre nourricière propice au bon jus de la treille. À travers monts et vallées, campagnes et hautes montagnes, partout le chant des oiseaux se propage, accompagnant le promeneur dans une quête sans cesse renouvelée du bonheur. Devant ces paysages montagneux où somptuosité rime avec certaine majesté, face à ces décors aussi parfois rugueux, le plaisir des sens ici éprouvé donne à ce territoire toute sa valeur ajoutée. Il n'est que de voir ces montagnes qui nous entourent, ces massifs qui nous dominent, ces rochers qui nous surplombent, tout se remplit d'une belle énergie de la terre pour déjà être comblé. Propice à l'imaginaire et à l'inspiration, bon nombre d'artistes en ont offert leur terre d'asile, leur destination, chacun exprimant à sa façon sa propre sensibilité de ce que lui inspire cette nature sauvage et préservée. Toutes ces falaises alentour, par le temps façonnées, telles des sentinelles de haute volée, gardiennes de toutes les mémoires, témoins silencieux de la vie des hommes et de leur histoire, nous rappellent de bien belle manière notre passage ici-bas, éphémère, en même temps qu'une certaine immuabilité des choses qui se devait, vous en conviendrez, d'être ici non pas rapportée en prose, mais en vers et contre tout.
Un poème sur la dent de Die. Le vieux de la montagne. Je le cherche, me dis-je, l'observant au loin, depuis les murailles de la cité. Il m'attend, me dis-je, cherchant le chemin parmi les vallées profondes. Je trouvai le sentier abrupt et l'empruntai sans tarder. Dur fut le parcours, éprouvante l'ascension. Et soudain, juste au-dessus, de la clairière à l'herbe douce où m'avaient conduit mes pas, il était là, dans son implacable majesté, assis bien droit, l'azur tout autour, au-dessus des montagnes. À ses pieds, les pins sylvestres s'alignaient en procession, mais il ne m'attendait pas. Sa lourde tête de pierre, légèrement levée, sondait le ciel, d'un regard exorbité où se lisait une sagesse effarée, comme s'il contemplait un spectacle indescriptible. Quelque chose de terrible déployé au creux de l'air. Et pourtant, tout son être irradiait d'une bonté sans âge. Subjugué, comme s'il m'était donné d'entrevoir un fragment d'une très ancienne épopée, je restais un instant assis dans l'herbe, les yeux et le cœur grand ouverts. Puis je fis demi-tour et replongeai dans le sous-bois.
Le jeune homme hanté se tut. Après un long silence que respecta le voyageur de minuit, il leva la tête et avoua. Pourtant, ami voyageur, je me sens bien loin du but. J'ignore toujours ce que sont les exilés, bien davantage encore les exileurs, et totalement ce qu'est l'exil. Ô ami, tu as fait de grands pas. Mais le chemin est long encore devant toi. Des étapes qui t'attendent, je ne saurais rien dire. Tout juste pourrais-je formuler quelques allusions. Le jeune homme pressa le voyageur d'en dire plus, mais celui-ci resta ferme et délivra 7 allusions à la hantise de l'exil. Première allusion. En exil, la douleur croît. Elle en réveille une autre en nous, plus secrète, mieux enfouie, et jette un sel rongeur sur cette plaie ouverte. Elle dévoile une face du moi et découvre au même instant l'abîme, l'effroi sans frein, sans fond, sans fin, le terrible désert d'être. Seconde allusion. Le chemin plonge et monte de l'inconscience vers la conscience. Dès qu'il se met en route, l'homme revient à soi. À peine revenu à soi, il s'adore et se fascine lui-même. Il est son propre prisonnier. Sortir de l'inconscience est son destin. Tomber dans la fascination de soi, son égarement. En rester l'esclave, son exil. Troisième allusion. Esclave, l'homme s'absente, oublie, et oublie de projeter. Il ne questionne plus, ou mal. Du fond de sa nuit, il s'accroche à lui-même. Il oublie le chemin et sa double avancée, l'originel qui remonte à la source, et l'ultime qui rejoint l'océan. Il laisse à l'abandon le chemin de sa vie, et le passage du temps ira tout effacer. Quatrième allusion. Ce moi fasciné, incomplet, entravé dans ses chaînes, étranger à sa source, ignorant de sa fin, abstrait, isolé, dérisoire, n'hésite pas à se prendre pour la réalité suprême. Il chasse Dieu hors de soi et s'installe en tyran. Cinquième allusion. Le tyran aspire à la puissance absolue. Le joug qu'il impose, ceux qui se mettent à son service, s'appellent des exileurs. Les amoureux de la liberté, qui gardent vive au cœur la patrie transparente et refusent la domination du tyran, ceux-là deviennent des exilés. Sixième allusion. Le moi, véritablement souverain, jeté loin de sa transparence, est en vérité l'exilé des exilés. Lui seul peut voir les exileurs et les exilés comme les deux visages d'une unique tragédie dont les actes se jouent en totalité sur la scène intérieure. Septième allusion. Tant que durera la fascination, tant que régneront la destruction, l'arbitraire et l'indignité, toi et moi seront des exilés. Mais si le moi véritable est l'exilé des exilés, qui sait s'il ne nous conduit pas à l'exil de tout exil? Qui sait si cet exil d'exil ne serait pas alors la clé de notre errance? Une fois encore, ils se turent. Une fois encore, le jeune homme reprit sa route. Il ne dit pas, en partant, s'il avait une question en tête. La main sur le cœur, il s'inclina longuement devant le voyageur, puis il se dirigea vers le couchant.
Maître Wanchi, le lieu de la joie pure. Lorsque les conditionnements de l'esprit n'ont pas encore germé, comment pourrait-on distinguer les mots et les images? Et qui pourrait les distinguer? Comprenez-le clairement, comprenez-le vous-même, absolu, total, la vision intérieure inclut tout. Elle n'est pas concernée par la pensée discriminante. Lorsque les pensées discriminantes sont oubliées, c'est comme le panache blanc des roseaux brillant sur la neige. Un unique rayon de lumière traverse tout l'univers. Un unique éclat rayonne dans toutes les directions. Dès l'origine, cela n'est ni caché, ni couvert. Saisissant l'occasion d'apparaître, cela s'épanouit parmi toutes les transformations. S'adaptant exactement à ces transformations, la joie pure ne change pas. Le ciel la remplit, l'océan la scelle. Chaque instant est sans défaut. En cet accomplissement parfait, l'intérieur et l'extérieur se fondent. Les autres meurent d'être trop occupés. Pour ma part, je maintiens la continuité. Dans la magie de la continuité, il n'y a pas de traces, pas même celle des identifications les plus subtiles. Au sein de la pureté existe la joie. Au sein du silence, l'éveil parfait. La maison de l'illumination silencieuse est le lieu de la joie pure.
Latika, Séverine, Myriam, Richard et Luc, merci pour ces mises en voix. Je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que vous pouvez retrouver la bibliographie et d'autres informations sur ces textes sur la page internet de cette émission de Radio Médium sur le site rdwa.fr. Vous écoutez toujours Radio Diwa sur le 107.5 et nous allons nous quitter pour aujourd'hui avec le psaume 96, verset 16, interprété par Richard et Myriam, bonne écoute et à la semaine prochaine.
Splendide. majesté sont devant lui, puissance et beauté dans son sanctuaire.